Bonjour, vous êtes sur Offensive Sonore, l'émission mensuelle du groupe Offensive Libertaire et Sociale. Aujourd'hui, nous allons rediffuser une émission consacrée au thème de la grève. Cette émission a été produite par nos camarades de Paris et a été diffusée il y a quelques mois sur les ondes de Radio Libertaire. Restez avec nous, l'émission dure jusqu'à midi.
Une grève surprise, bravo. 30 tonnes de barbac sur le carreau alors qu'on meurt de faim à Chandernagor, hurrah. Monsieur Grafouillère, vous êtes un meneur et vos petits camarades des inconscients. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés, c'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste, des chômeurs en puissance. Le chômage, Le chômage et son cortège de misère. Y avez-vous pensé?
Non, c'est une fortune.
Fini la petite auto. Fini les vacances au crottoir. Fini le tiercé.
C'est pourquoi, mes amis, si vous avez des revendications de salaire à formuler, vous m'adressez une note écrite et je la fous au panier et on n'en parle plus. Nous sommes bien d'accord?
Oui.
Allez, un peu long et un peu vite.
Vous êtes sur Offensive Libertaire, l'émission d'Offensive. On va aborder le thème de la grève, un thème qui est cher à la revue Offensive, puisque le numéro 2 de la revue était déjà consacré à ce thème et s'intitulait « La grève à réinventer ». Donc 17 numéros plus loin, 5 ans plus tard, le dossier reste ouvert sur la question de la grève. Et donc on va faire un espèce d'aller-retour. On va retourner dans des temps plus anciens. On reçoit même Miguel Chueca, donc qui est universitaire et qui a coordonné un ouvrage aux éditions Agone, « Déposséder les possédants, la grève générale au temps héroïque du syndicalisme révolutionnaire 1895-1906 ». Donc bonsoir Miguel.
Bonsoir.
Et un peu plus tard dans l'émission, on recevra Jérôme Pélisse, qui a coordonné, lui, un ouvrage avec 4 autres collègues. Jérôme Pélisse, qui est maître de conférence à l'université de Reims, et donc qui a coordonné un ouvrage qui s'appelle « La lutte continue, les conflits du travail dans la France contemporaine » aux éditions du Croquant. Donc bonsoir Jérôme.
Bonsoir.
Donc on va commencer directement sur l'ouvrage des éditions Agone, « Déposséder les possédants ». Donc Miguel, avant d'aborder le sujet, je dirais en profondeur, je souhaitais peut-être déjà souligner en fait la qualité du travail éditorial qui a été réalisé, parce que donc c'est un ouvrage qui est introduit et dont les textes ont été rassemblés par vous-même. Il y a aussi des chronologies à la fin, des présentations des auteurs. Chaque texte est introduit. Et qu'est-ce qui vous a donné envie au départ de vous intéresser à cette question-là, de la grève générale, sur cette période-là en plus, ce qui est assez précis?
C'est-à-dire, cette période, c'est parce que c'est la période par excellence du débat autour du thème de la grève générale. Hein. C'est vraiment, et en plus, c'est un débat qui, à l'origine, est proprement français. Hein. C'est une idée, non pas française, puisque, à l'origine, cette idée viendrait plutôt d'Angleterre, hein, du premier chartisme, mais disons, c'est la grande idée du mouvement ouvrier français de la fin du 19e, début du 20e. Moi, ce qui m'intéressait, c'est parce que je suis pas un spécialiste académique de la question. Hein. Je suis plutôt un amateur qu'autre chose. Ça ne m'a pas empêché de travailler, évidemment, à fond sur la question. Ouais. Mais je suis plutôt un hispaniste. Mmh. Je viens du milieu anarcho-syndicaliste espagnol. Donc, ce sont des choses que je devrais connaître. Je me suis rendu compte au fil des années que je ne connaissais pas tant que ça. Et puis un jour, par hasard, il y a 5-6 ans, je crois, j'ai eu un texte par Louis Janovert, une petite brochure de la commission de propagande sur la grève générale de la CGT de l'époque. Et j'en ai fait une présentation pour une petite revue pour laquelle je travaillais à l'époque, à laquelle je collaborais, qui était Les Temps Maudits, hein, la revue de la CGT.
Qui existe toujours. Ouais.
Oui, qui existe toujours, voilà. Et donc, on devait faire un numéro sur la CGT. J'avais proposé ça, ça ne s'est pas fait. Et c'est à partir de là, c'est environ 5 ans, voilà, que je me suis mis à travailler à fond sur le sujet.
D'accord. Qu'est-ce qui distingue la grève de la grève générale?
La grève qui longtemps a été considérée négativement par les ouvriers, ou ce qui commençait à être le mouvement ouvrier, à l'origine, il y a une position assez contraire aux grèves chez les ouvriers. Et les premières organisations qui se forment, les organisations de résistance, la grève n'est pas une chose qui est admise. Hein. Au contraire, on en voit les défauts, l'aspect négatif. L'aspect positif de la grève, on les couvre finalement assez tard. Hein. C'est à la fin des années, c'est en gros 1880 en gros, et très rapidement on passe à la grève générale, c'est-à-dire on passe de la grève partielle à l'idée de grève générale. C'est-à-dire en fait, dans le mouvement ouvrier français, révolutionnaire j'entends, il y a un passage qui se fait très rapidement de l'admission de la grève comme instrument d'action privilégié des ouvriers, alors que jusque-là le mouvement ouvrier y était plutôt contraire. Je pense à quelqu'un comme Proudhon, hein, qui était tout à fait contraire aux grèves. Oui. Et on passe de ça à la grève générale comme l'effort maximum, c'est-à-dire la grève, ce serait une sorte de c'est l'idée de gymnastique finalement, d'une sorte de préparation. La grève est l'instrument par excellence de la lutte des classes, et la grève générale, c'est le combat final, c'est la grève portée jusqu'à sa dernière extrémité. Voilà. Alors, et ça, c'est des choses qui... Michel, il y a une historienne, qui est vraiment l'historienne qui a travaillé à fond sur la question, qui est Michel Perrault, qui montre ça très très bien. C'est qu'en l'espace de quelques années, donc, on passe de l'un et l'autre. Et la grève générale, et ensuite la grève générale, c'est vraiment la colonne vertébrale du syndicalisme français. Je ne dirais pas des origines, parce qu'il existait déjà avant, mais disons de ce syndicalisme qui est confédéré, qui apparaît à la fin du 19e siècle, avec les bourses du travail et la CGT. Et la grève générale, c'est vraiment l'élément moteur. C'est-à-dire c'est l'idée fondatrice du syndicalisme français à dominante révolutionnaire, hein, parce qu'il y avait aussi un courant qui l'était beaucoup moins.
Alors pour dans la présentation que vous faites, hein, on va y revenir tout au long de l'interview, c'est une sorte de débat à l'intérieur de l'ouvrage entre différents points de vue. Oui. Vous introduisez directement sur un texte d'Émile Pouget qui fait un petit peu l'histoire de la grève générale.
Voilà, l'histoire de l'idée de grève générale, oui. Oui. C'est-à-dire, oui.
Allez-y.
Oui, non, je disais, moi j'ai essayé de donner les textes par leur ordre d'apparition chronologique, hein, tout simplement. En ce qui concerne Pouget, je l'ai mis avant, au tout début, alors qu'il est... Il est plus récent que le texte de Belloutier, par exemple, Qu'est-ce que la grève générale. Et j'ai mis Pouget d'abord parce que précisément, il fait une sorte d'histoire, une histoire très complète. Et d'ailleurs, les gens qui ont fait des livres ou des petits livres, des essais sur l'histoire de l'idée de grève générale se sont tous servis, sont cités d'ailleurs forcément de ce petit essai de Pouget, l'essai de Pouget de 1904. Et donc, j'ai voulu le mettre en avant parce qu'il fait vraiment un historique très, très complet de l'idée de grève générale jusqu'en 1904, en commençant par les débuts ou du moins ce qui sait des débuts, puisqu'il y a des choses dont il ne parle pas, en particulier cette question de l'origine anglaise de la grève générale. Ensuite, une fois que ce texte est donné, donc c'est un texte qui a été un modèle pendant longtemps sur l'idée de grève générale dans le syndicalisme français. Ensuite, par contre, les textes apparaissent dans un ordre chronologique depuis 1995, donc c'est les dates... Que tu as cité tout à l'heure, 95-1906, c'est vraiment la période d'or du syndicalisme révolutionnaire français. 95, c'est la parution de cette brochure de Fernand Pelloutier, qui est vraiment le père du syndicalisme révolutionnaire, même du syndicalisme français en général, qu'il a écrit avec Henri Girard, qui est un personnage, hélas, dont on a découvert...
Je triche, je l'ai sous les yeux.
Oui, 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 oui. Mais Henri Girard n'était pas un homme aussi respectable que Fernand Pelloutier, puisqu'on a appris bien longtemps après sa mort qu'il était malheureusement un mouchard de la préfecture, qui était un infiltré. Et j'avais demandé, d'ailleurs, aux gens d'Agone, j'aurais demandé de bien vouloir supprimer le nom de Girard de la couverture. Ils l'ont fait, puis après, ils ont estimé qu'après tout, il était sur son nom figurait sur la couverture de la brochure. Donc ça, c'est vraiment une brochure où Pelloutier développe sous forme de dialogue une brochure... disons populaire, quoi, qui est faite pour être lue par... C'est pas de la très haute théorie, hein. Mais c'est une chose, évidemment, où figurent déjà, en gros, les thèmes essentiels de ce qu'on appelle à l'époque les grèves généralistes. Hein. Et ensuite, chronologiquement, ça va jusqu'en 1906, qui est le moment où Sorel publie ses fameuses thèses sur la grève générale comme mythe social.
Voilà. Dans Réflexion sur la violence.
Voilà, voilà.
On aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard. D'ailleurs, je voulais revenir sur le texte de Fernand Pelloutier, qui est une forme de dialogue. On ressent vraiment cette aussi volonté didactique d'éducation populaire,
oui, oui.
Bon, qui est une idée qu'a travaillé Fernand
bien
Pelloutier.
Sûr, bien sûr, oui, c'est un dialogue entre ouvriers. Voilà.
Oui, qui est du coup assez simple et agréable. Agréable
bien sûr. Oui.
Alors, je voulais revenir aussi sur Pouget, qui pour lui, donc, la question de la grève générale est légitime aussi parce qu'elle a des origines prolétariennes. Alors vous dites peut-être...
Oui, c'est ce qu'il dit. Il a tout à fait raison parce qu'on souvent quand... quand on ne connaît pas tellement ces choses-là, on a toujours l'impression que... quand les gens parlent de Sorel comme du théoricien par excellence de la grève générale. Le texte qu'écrit Pouget, évidemment, est antérieur à l'essai le plus connu de Sorel. Mais Sorel ne fait que théoriser. Son projet, c'est de donner une théorie, une version théorique du syndicalisme révolutionnaire. Ce n'est pas de créer quoi que ce soit. Il essaye simplement de réfléchir avec ses instruments à lui sur ce que font les syndicalistes de l'époque, en restant au plus près des syndicalistes. Et Pouget dit en 1904 qu'effectivement, ce que cette idée a de remarquable, c'est que c'est une idée purement ouvrière. C'est une idée dont il dit, avec une très belle expression, qu'elle n'a pas de blason idéologique. C'est-à-dire qu'elle n'est pas une idée née dans tout armée dans le cerveau d'un théoricien, quel qu'il soit, dire anarchiste ou autre, qu'elle est véritablement une idée ouvrière. Et ça, c'est une chose, évidemment, des choses les plus intéressantes dans cette idée de rêve général.
D'accord, mais qu'est-ce qui lui permet d'affirmer ça? Se trouve pas trace d'idéologue? C'est plus par la négation, c'est le fait qu'on ne trouve pas de trace d'idéologue qu'il a...
C'est-à-dire que c'est une idée qui est venue de l'intérieur même du mouvement ouvrier.
D'accord.
C'est une idée qui n'a pas véritablement qui n'est pas née dans les livres. Voilà.
D'accord. Et donc, je vais revenir sur ce que vous avez dit à plusieurs reprises déjà, qu'elle est propre au mouvement social français.
C'est-à-dire, à l'origine, la première fois que cette idée apparaît, alors après, on peut toujours lui trouver d'autres, parce que des historiens qui vont toujours chercher plus loin. Mais l'origine, c'est le mouvement ouvrier anglais. C'est vraiment les années 1830-1840, c'est le premier mouvement ouvrier, c'est le chartisme, dans son moment le plus radical. Mais ensuite, le mouvement ouvrier anglais l'oublie, cette idée, l'oublie complètement. Elle est enterrée, et puis elle disparaît pendant des années, et les syndicalistes révolutionnaires français... Disons qu'il l'a, c'est pas qu'il la découvre, il la recrée. Voilà, c'est ce qu'on dit assez souvent. Ils n'ont pas trouvé quelque part, ils l'ont recréé. Mais quand Pouget parle de l'idée de grève générale, par exemple, lui qui connaissait très bien l'histoire du mouvement ouvrier anglais, il ne parle pas de ses origines anglaises. Par contre, les ennemis du grève généralisme, des grèves généralistes, eux, souvent insistent sur le fait que c'est une vieille idée. Une vieille idée qui existait autrefois et dont finalement un vieux cheval de retour, là, c'est comme ça que la qualifie Engels, enfin c'est un vieux cheval de retour, l'idée c'est que c'est une idée qui appartient à la préhistoire du mouvement ouvrier et que le mouvement ouvrier le plus avancé, les Anglais, etc., s'en sont débarrassés un jour et qu'il faut la laisser là où elle est. Voilà.
Alors autant en France, je pense que l'idée de grève générale... comme mode de, alors je sais pas, de régulation ou de pression, je sais pas quel terme employer, mais du capitalisme afin d'obtenir des revendications, d'obtenir du progrès social, semble assez clair, je pense, dans la culture française et encore aujourd'hui, hein, même si y a des difficultés à pouvoir la mettre en branle. Quels sont alors les autres modes de régulation, du coup, dans les autres pays à l'époque, justement, si c'est pas la grève générale qui est le moyen de pression sur le patronat, c'est...
À l'époque, il y a ceux qui sont toujours du côté de l'émeute, de l'insurrection, et puis ceux qui pensent que le mouvement ouvrier doit intervenir en politique, prendre le pouvoir par les élections, et souvent sont les mêmes, d'ailleurs, puisque le plus grand des adversaires, l'ennemi juré du grève généralisme dans le socialisme révolutionnaire, c'est Jules Guesde, hein. Et Jules Guesde, c'est l'introducteur du marxisme en France. Hein. Avec Paul Lafargue, ils ont fondé donc ce Parti ouvrier français, qui a été vraiment par excellence le premier adversaire de ce qu'eux-mêmes ont appelé les grèves généralistes, puisque le terme de grève généraliste vient, comme presque toujours, des adversaires de cette doctrine syndicaliste. Et donc je disais que Jules Guesde est parti de positions qui étaient des positions, disons, insurrectionnalistes et passé très vite au combat électoral, au combat politique, hein, électoral, dans une démarche qui est une démarche très, très courante. Ce qui veut dire que quand la grève générale, quand les grèves généralistes mettent en avant cette idée, qui est véritablement fondatrice, hein, du syndicalisme français, ils sont en face d'une alternative qui est soit le recours habituel à l'émeute, aux armes, et puis l'autre, c'est cette nouvelle stratégie qui est la stratégie de la conquête des pouvoirs publics par les urnes.
Est-ce que ça veut dire qu'on retrouve le même partage réforme-révolution ?
Oui, bien sûr.
Oui, c'est ça. Oui, c'est le débat qui se focalise là, en fait, est un débat.
Oui, sauf que ces gens se prétendent des révolutionnaires. Hein. Ils le sont, et d'ailleurs, ils vont le rester longtemps, du moins en parole, ils eux-mêmes se définissent comme des socialistes révolutionnaires. Ils le sont. Des gens comme Jules Guesde ou Édouard Vaillant se définissent vraiment longtemps comme des révolutionnaires.
La révolution
même si après,
par les urnes, quoi.
Voilà, la révolution par les urnes. Voilà. Et donc, ceux qu'on va appeler, ceux que les guédistes même vont appeler les grèves généralistes, pour se moquer d'eux, comme c'est presque toujours le cas, donc eux vont reprendre à leur compte ce terme de grève généraliste. Les grèves généralistes, ils opposent à cette alternative une autre, qui est ce qu'on appelle à l'origine la révolution des bras croisés. C'est-à-dire, comme l'émeute a donné les résultats qu'on sait, que la stratégie barricadière ne mène qu'à des massacres, ils trouvent cette idée, qui est une idée ouvrière, d'une révolution qui serait la révolution de la classe ouvrière elle-même sur ses lieux de travail. C'est-à-dire qu'au lieu d'abandonner le travail, au lieu d'être les fantassins au service de petits groupes émeutiers, barricadiers, d'une avant-garde révolutionnaire, c'est l'idée d'une révolution ouvrière faite par les ouvriers eux-mêmes qui consisterait simplement à se croiser les bras. Voilà. Donc ça, c'est
oui, mais ça, c'est quand même bien dénoncé parce que...
C'est la première apparition de l'idée de grève générale. C'est ce que Pouget appelle l'idée bonasse de l'insurrection des bras croisés. Parce qu'évidemment, elle va donner lieu à tellement de critiques qu'ils vont... des critiques qui vont persister d'ailleurs bien après, hein, puisque même Malatesta au Congrès d'Amsterdam reprend à son compte ses idées contre la grève générale. Ces idées, elles vont être très critiquées. Ce côté un petit peu primitif, on dit finalement, si vous croisez les bras, vous allez mourir de faim très vite. Donc elle va donner lieu ensuite à une réélaboration. Et l'idée d'insurrection des bras croisés, elle va être assez vite abandonnée par une idée, disons, où on revient un petit peu plus à la stratégie émeutière et barricadière, qui est l'idée de grève générale expropriatrice, révolutionnaire et violente. Donc oui, parce que là, on revient, sous l'influence en particulier des anarchistes, on revient à une idée de la grève générale qui est plus proche du modèle barricadier et émeutier.
Oui, parce que ce que vous dites, en fait, aussi, peut-être pour replacer dans le contexte, c'est aussi qu'on sort de la Commune de Paris.
Voilà, bien sûr.
Qui est un véritable massacre.
Voilà, bien sûr. Donc c'est l'idée de trouver autre chose que ces révolutions barricadières, émeutières, qui de toute façon finissent toujours par la défaite des ouvriers, d'autant plus qu'à l'époque, l'armement militaire a fait d'énormes progrès, qu'il y a eu la fameuse création du fusil Lebel, qui a donné des résultats terribles à Fourmies, par exemple, au 1er mai de 91, je crois, à Fourmies. Et donc les révolutionnaires savent très bien que sur ce terrain, ils sont perdants. Donc il trouve cette idée, hein, de grève générale dans on ne sait où, hein, d'ailleurs, puisque c'est une idée qui en France n'existait pas, mais il la trouve on ne sait où, elle vient on ne sait comment, et tout d'un coup le premier propagandiste de la grève générale sous cette forme de l'insurrection des bras croisés, on arrête tout et le système s'effondre tout seul, c'est un menuisier parisien qui vient du guédisme aussi, curieusement, qui a quitté le guédisme pour l'anarchisme, qui a eu un grand succès à l'époque, et en particulier chez les ouvriers du bâtiment parisien. Lui, c'est un menuisier. Et Tortelier, il s'appelle le compagnon Tortelier, va être vraiment le propagandiste de cette idée. C'est-à-dire qu'il va partout. Hein, il va partout faire prêcher la nouvelle idée aux ouvriers. Et alors, il est signalé par les services de police aux quatre coins de la France. Il se donne un mal fou pour propager cette nouvelle idée ouvrière. Voilà.
Ce qui est surprenant, ça, dans votre introduction, vous dites que Proudhon, aujourd'hui, c'est vrai, on se dit anarchiste pour la grève générale. Oui. Bon, même si Proudhon fait débat, et sur quel motif il s'oppose à la...
Non, Proudhon, là-dessus, il a des visions qui sont les visions du mouvement ouvrier de l'époque. Hein. Il est pas très partisan du regroupement des ouvriers en corporations, syndicats.
Ah oui,
il n'est pas partisan de la grève. Il pense que les ouvriers ont plus à perdre qu'à gagner. C'est une autre époque du mouvement ouvrier. Il reste que malgré tout, les grèves généralistes, pour beaucoup d'entre eux, s'inspirent de Proudhon en beaucoup de points. Pelloutier est quelqu'un de très proudhonien, mais pas en ce domaine. En ce domaine, là, évidemment, il y a une rupture avec l'héritage proudhonien.
Est-ce qu'à un moment donné, c'est un débat que, justement, sur les commémorations de 68, on parlait de la grève, de cette grève qui a duré extrêmement, extrêmement longtemps, mais on parlait aussi des limites, justement, qu'à un moment donné, les ouvriers n'ont pas su passer à une étape supérieure, oui. C'est-à-dire redémarrer les usines. Est-ce que c'est un débat qui se pose à l'époque de dire on redémarre les usines sans les ouvriers ou sans les patrons plutôt.
Oui, bien sûr. Non, ouais. Le problème, c'est que quand la théorie est là, la pratique n'existe pas. Et puis quand la pratique est là, la théorie a disparu. C'est-à-dire que quand les syndicalistes de l'époque parlent de la grève générale, ils en parlent comme d'une possibilité. Ils n'ont jamais essayé de lancer une grève générale. Ils ne se sont jamais sentis suffisamment la force pour le faire. C'est pour ça, d'ailleurs, que des gens comme Sorel ou l'inspirateur, l'animateur de la principale revue intellectuelle liée au syndicalisme révolutionnaire, Hubert Lagardelle, parle du fait qu'au fond, la grève générale, elle aura lieu ou elle n'aura pas lieu, ça n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est que cette idée, elle maintient les ouvriers à l'écart des compromissions politiques. D'accord. C'est leur idée de la grève générale comme une idée directrice. Mais que ce soit réalisé ou pas, peu importe. Ils n'ont jamais, en tout cas, ils n'ont jamais eu la force d'essayer de la lancer. Je pense qu'ils étaient très conscients, évidemment, de leurs limites. D'ailleurs, au début, leur comité s'appelle comité d'organisation de la grève générale. Et Pouget lui dit lui-même, ça, c'est très prétentieux de vouloir organiser la grève générale. Et on remplace par comité de propagande. C'est-à-dire, eux n'ont jamais eu la force. Malheureusement, à l'été 14, ils n'ont même pas eu la force de faire la grève générale. Donc, sa deuxième, parce que dès la première internationale, cette idée, elle apparaît sous deux formes. La grève générale, c'est la grève générale comme synonyme de révolution, c'est-à-dire le moyen par excellence de mettre fin à la domination des dominants, et puis la grève générale comme grève générale contre la guerre. Voilà. Et les syndicalistes de l'époque n'ont pas pu mener ni l'une ni l'autre. Alors, curieusement, effectivement, cette idée, elle disparaît après, puisqu'elle est jetée véritablement aux orties. Le syndicalisme révolutionnaire français s'effondre en 14, il ne renaît plus en 18. Non. Après, les syndicalistes, pour la plupart, presque tous, et il y a en particulier l'itinéraire très intéressant de quelqu'un comme Pierre Monnat, qui va entrer au Parti communiste, etc., puis qui reviendra très vite au syndicalisme révolutionnaire. Mais le syndicalisme révolutionnaire lui-même s'effondre en 14, il ne renaît plus en 18, et l'idée, elle est jetée aux orties, et puis curieusement, cette idée refait surface, mais évidemment, elle n'a pas la forme.
Mais, j'imagine, de l'époque, aujourd'hui, on peut pas...
C'est-à-dire, elle ne se donne pas, évidemment, elle n'est plus portée par un syndicalisme qui a l'inspiration du début, mais n'empêche que l'idée reste, et curieusement, elle reste surtout en France. C'est ça qui est frappant, c'est de voir qu'effectivement, même aujourd'hui, tu disais tout à l'heure, aujourd'hui, il n'y a pas si longtemps, on voyait le mot grève générale partout, qu'on a remplacé par rêve général.
Oui, justement,
c'est un thème qui est curieusement...
Ça revient bien sur ce que
vous... Et ce qui est curieux, c'est que c'est un thème qui reste toujours assez prégnant dans un pays comme la France, qui a été le pays par excellence de la grève générale. Et ça, c'est une chose qui est vraiment frappante, cette espèce de persistance de l'idée, malgré le changement d'époque, malgré le fait qu'aujourd'hui, effectivement, le syndicalisme révolutionnaire lui-même n'est plus évidemment du tout ce qu'il était. Le syndicalisme a tourné le dos à cette tradition-là. Mais malgré tout, il y a cette subsistance très frappante de cette idée qui est une idée en quelque sorte très, très française.
Hein. Alors justement, vous dites rêve général, qui était un autocollant qui a été collé pendant le mouvement contre le CPE. Est-ce que c'est dans ce sens-là que Sorel en parle quand il parle de la grève générale et qu'il en fait un mythe ou...
C'est-à-dire, lui, il s'interroge sur les... Il intervient à un moment où les... Dans les réflexions sur la violence et dans d'autres textes qu'il fait avant, il intervient à un moment où les socialistes, et en particulier Jaurès, dans un article qu'il écrit au début du siècle et qui est donné intégralement dans ce recueil, où les socialistes s'efforcent de prouver que la grève générale est impossible. C'est impossible. Mmh. Et Sorel et les syndicalistes répondent, si, c'est tout à fait possible. Et ça donne lieu à plusieurs échanges. C'est l'aspect, disons, débat du recueil, puisqu'en effet, il y a des sortes de réponses des uns aux autres.
Oui, c'est ça qui est intéressant.
Sous forme de débat. Mais Sorel intervient pour dire, finalement, c'est secondaire. Hein. Nous on n'en sait rien que si la grève générale peut se réaliser ou pas. Ce qui importe, c'est la fonction de l'idée de grève générale. C'est une idée qui d'une certaine façon, sert à une sorte de valeur de mythe social, de mythe mobilisateur. Et mythe mobilisateur, non pas... Il faut entendre mythe dans un sens qui n'est pas le sens d'illusion. Ce n'est pas du tout ça. Parce qu'il est un théoricien. Il est proche des syndicalistes révolutionnaires, très proche d'eux. Il veut se faire leur porte-parole. Il veut être celui qui trouve la version théorique du syndicalisme révolutionnaire. Et donc, lui, ce qu'il dit, c'est... ça n'a pas d'importance. Ce qui importe dans cette idée, c'est sa valeur pour aujourd'hui. Et sa valeur pour aujourd'hui, c'est le fait de garder la classe ouvrière, en tout cas sa partie la plus consciente, hors de toutes les tentations du socialisme politique. C'est ça son idée. Voilà. Ça ne répond pas du tout, évidemment, à ce que souvent on lui attribue l'idée que ce serait un mythe et ce ne serait pas une réalité. Sorel ne se situe pas sur ce plan. Il est à ce moment-là, vraiment, il essaye d'être l'interprète du syndicalisme révolutionnaire avec cette idée de mythe. L'idée, c'est que peu importe qu'on puisse prouver ou pas prouver que l'idée est réalisable, ce qui importe, c'est la fonction de cette idée. Voilà.
Et Miguel Checa, avant de conclure, on peut souligner ce qui est intéressant dans l'ouvrage, c'est que effectivement, vous ne donnez pas que la parole aux anarchistes, aux syndicalistes révolutionnaires, vous mettez le débat, il y a un texte de Jaurès, et puis aussi, dans une troisième partie, les socialistes, vous montrez aussi la diversité à l'intérieur des mouvements, avec un texte pour et un texte de contre.
C'est-à-dire, c'est vrai que j'ai voulu, je ne vais pas m'en cacher, c'est un texte c'est un recueil qui est fait, évidemment, essentiellement du point de vue des syndicalistes de l'époque, syndicalistes au sens qu'on donne à ce terme à l'époque, c'est-à-dire les grèves généralistes et révolutionnaires. J'ai voulu quand même, parce que ça me paraissait c'est la moindre des choses, donner aussi la parole aux critiques du grève généralisme. Et j'ai choisi en effet un texte très long, parce que c'est la première critique systématique. Ensuite, il y a même une brochure faite par un syndicaliste, une brochure de 150 pages qui essaye de démolir entièrement cette théorie. Mais la première critique, personne n'est allé aussi loin, c'est celle de Jean Jaurès. J'ai donné aussi à côté une critique qui est encore bien plus extrême, c'est le seul texte d'un non-français, puisqu'en fait, ce sont des débats internes au mouvement ouvrier français. J'ai voulu donner aussi un texte d'un socialiste néerlandais, parce que là, on est franchement dans un cas de refus total et absolu. Alors que Jaurès, il est un des dirigeants du socialisme français. Il sait qu'il faut tenir compte de l'existence d'un syndicalisme qui est à l'époque puissant, qui est même pendant un certain temps bien plus puissant que le socialisme politique. Donc Jaurès sait qu'il doit tenir compte de ça. Donc Jaurès critique, mais il reste malgré tout, il essaye toujours de rester quand même dans un certain contact avec les grèves généralistes. Il va demander d'ailleurs à des gens comme Pouget, Griffuel, tous les syndicalistes, de venir écrire dans son journal, dans l'Humanité. Par contre, le socialiste néerlandais, là, c'est un refus total et absolu. C'est vraiment le refus de la social-démocratie européenne, qui, elle, ne se soucie absolument pas de compromis avec le syndicalisme révolutionnaire, parce qu'ils ne le connaissent pas.
Alors, pour conclure sur l'ouvrage, il y a une chose qui m'a choqué. Je n'arrive pas à retrouver le passage dans l'introduction, mais vous dites que quand la CGT intègre l'idée de grève générale, je crois, vous comparez à la manière dont la CFDT a intégré l'idée de gestion dans les années 70, c'est-à-dire...
Non, je dis qu'à partir du moment où les socialistes, Jaurès et quelques autres, décident en quelque sorte d'intégrer avec beaucoup de précautions le thème de grève générale dans leur propre discours, c'est-à-dire la grève générale... Nous, on est pour la conquête des pouvoirs publics, mais il y a une autre solution qui est la grève générale. Les deux sont possibles en même temps. Il y a véritablement ce que les syndicalistes de l'époque appellent une tentative d'enveloppement, c'est-à-dire de récupération. C'est très clair que ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on récupère une idée purement ouvrière qui est une idée contre laquelle on a toujours été. Et à partir du moment où on la récupère, c'est que ça veut dire que cette idée a déjà perdu de sa force. C'est un peu, voilà ce que je disais, ce qui se passe en France après 68, quand tous les partis gouvernementaux... à la limite, presque le PC récupère cette idée d'autogestion, ça veut dire qu'elle est déjà vidée de sa substance. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
J'ai bien fait de vous poser la question, alors Miguel Checa, merci. On va faire une pause musicale, et puis après on va retrouver Jérôme Pélisse pour La lutte continue, un livre édité aux éditions du Croquant.
There's nowhere they can run.
Up the rise, say, up the rise.
He was a South Arma sniper. He'd pick a spot and wait the whole day through until the Brit patrol came into view. They are my sniper. He never missed his mark. He was lethal in the daytime and deadly in the dark. If he gets you in his sight, you'd better say your prayers. So British troops go home or else beware.
lost like wildfire. The list of British casualties just kept on getting higher.
Up the Ra, say, up the Ra.
It was the South Arm, my sniper. He made the British forces think again about wandering at night through across the glen. They are my sniper, the Brits were terrified. They could never pin him down, no matter how they tried. If he gets you in his sights, he'll make widows of your wives. So Brits, go home while you still have your lives. They pretend to speak of peace.
Up the Ra, say, up the Ra.
They say, give us your weapons and we'll make this bloodshed cease.
Up the Ra, say, up the Ra.
But the South Arm, my sniper, he's heard their lies and double talk before. He won't be fooled or cheated anymore. They are my sniper, he hasn't gone away. His rifle's all been loaded, he's just waiting for the day. So if the British government should break their word, well then, the sniper will go back to work again.
I'm a coming back, boys!
Vous êtes de retour sur Radio Grenouille et nous venons d'entendre Arm My Sniper, une chanson sur la compile Irish Rebel Songs qui devrait pas tarder à sortir. Offensive sonore continue et nous retrouvons tout de suite la deuxième partie de notre émission consacrée au thème de la grève.
La lutte continue, c'est le titre de l'ouvrage paru aux éditions du Crocan, un ouvrage collectif. On va citer les auteurs une fois pour toutes parce qu'ils sont cinq, Sophie Bérou, Jean-Michel Denis, Guillaume De Sage et Baptiste Giraud, et avec nous Jérôme Pélis, qu'on a eu l'occasion de saluer en début d'émission. L'objet de cet ouvrage, là on fait un bond dans le temps de 100 ans quasiment, parce que c'est 1895-1906 la période dont on parlait précédemment, et maintenant ça pourrait être 1995-2006 quasiment, hein, l'enquête c'est quasiment ces dates-là. Donc vous êtes sociologue. L'objet de l'ouvrage, c'est une contestation un petit peu déjà des méthodes qui sont employées pour mesurer la conflictualité en France.
Oui, alors enfin, juste une précision sur le titre, c'est « La lutte continue »
avec un point d'interrogation, c'est voilà. Vrai.
Oui, et la couverture du bouquin donc, reprend le slogan de 68, mais en y mettant bien un point d'interrogation, puisque on prétend pas y répondre de manière simple, parce qu'évidemment, les choses sont compliquées. Et donc, effectivement, l'ouvrage est construit d'une manière qui vise un peu à combattre des idées reçues. Et il y en a beaucoup dans le domaine des conflits du travail et leur supposée baisse abyssale, au point que le 5 juillet dernier, notre président de la République donc, a s'est même félicité du fait qu'on était enfin devenu un pays moderne, puisqu'il n'y avait plus de grèves. En tout cas, on ne les voyait plus quand il y avait des grèves en France.
Oui.
Donc, alors c'est un peu la quatrième de couverture part de cette phrase de Nicolas Sarkozy, qui nous a servi sur un plateau, en quelque sorte, puisque le bouquin pourrait être une réponse directe à ce sujet. Donc, juste pour revenir sur l'équipe, hein, on est deux sociologues, Jérôme Pélis et donc moi-même, et Jean-Michel important. Denis, deux politistes, Sophie Bérou et Baptiste Giraud, et puis un statisticien, ou en tout cas un chercheur en sciences sociales
qui
utilise beaucoup ces techniques, puisque effectivement l'ouvrage s'appuie sur une enquête, hein, une enquête statistique qui est menée sous l'égide du ministère du Travail, et nous avons exploité en particulier les deux dernières éditions de cette enquête. Il y en a eu trois éditions en tout, hein, une première en 1993, une seconde en 98 et une dernière en 2005. Et à chaque fois, cette enquête, qui est une grosse enquête, hein, il y a des questionnaires assez importants qui sont passés vis-à-vis des employeurs, des représentants du personnel et puis aussi des salariés, et dans lequel on pose tout un tas de questions sur l'organisation du travail, la tenue de négociations, le climat social et les conflits. Les conflits sont une partie importante de ce questionnaire. Et donc, c'est à partir de cette enquête que nous avons construit ce bouquin, qui s'appuie donc beaucoup sur des chiffres, mais aussi sur des monographies. Donc le bouquin est construit un peu sur ces idées reçues qu'on cherche à combattre. Donc il y en a quelques-unes, hein, et la première d'entre elles, évidemment, pourrait être la réponse un peu au titre quand même.
Oui.
On apporte quelques éléments de réponse à cette interrogation sur la lutte continue-t-elle.
Oui.
Et donc la première idée reçue dans laquelle on peut partir, c'est celle que donc les conflits seraient en baisse en France. Ils seraient largement en baisse depuis la fin des années 70. On nous dit qu'il y a un étiage... continue de la part des conflits du travail en France dans les entreprises, malgré quelques épisodes typiquement français, 95, 2003, 2006, où on a affaire à des grands conflits interprofessionnels qui mêlent aussi beaucoup de gens du public, justement. On reviendra sur les idées reçues qui entourent cette participation du public aux grèves, qui serait exclusive et ce qui n'est pas du tout le cas. Et donc, voilà, la première idée reçue qu'on combat, c'est celle de Sarkozy, finalement, du 5 juillet.
Mmh.
Et c'est donc de dire que les conflits augmentent en France entre la période 96-98 et 2002-2004, en termes de données, puisqu'on s'appuie sur ces données-là.
Mais si cette idée reçue existe, est-ce qu'elle ne vient pas aussi de la manière de calculer précédemment ou les conflits du travail avec les journées individuelles non travaillées, où on compte simplement quand les gens ne travaillent pas et...
Voilà, alors en fait, c'est cette idée reçue, hein, sur le fait que les conflits seraient en baisse, elle repose sur une double erreur, on pourrait dire. Une première erreur, c'est celle de dire que le conflit, c'est la grève. Alors, on vient de parler de la grève générale, de l'idée qu'elle pouvait... peut-être que cette idée persistante dans la culture française, elle a aussi produit le fait qu'on ne voit le conflit qu'à travers le prisme de la grève. La grève est évidemment la forme de conflit la plus pure, on pourrait dire, en quelque part.
Mmh.
Mais évidemment, il y a plein d'autres formes de conflits, et c'est ce que permet de saisir cette enquête.
Mmh.
Donc, première restriction, ce serait de se centrer, pour parler de la conflictualité, sur la seule grève. Et c'est ce qui explique ensuite les raisons pour lesquelles on pense qu'il n'y a plus de conflits, parce qu'on explique que les grèves diminuent. Et là aussi, il y a une deuxième erreur qui tient à l'indicateur qu'on emploie pour dire que les grèves diminuent. L'indicateur, c'est donc les journées individuelles non travaillées pour faire de grève, les JINT, comme on dit, et dont on constate année après année, à part donc quelques épisodes, hein, 95 par exemple, la baisse régulière et irrémédiable en quelque sorte. Or, l'enquête sur laquelle nous travaillons, elle ne s'appuie pas sur les JINT, hein, elle s'intéresse à un autre indicateur qui est la part des établissements concernés par des conflits.
Oui. Hein,
donc c'est autre chose que le calcul des journées individuelles non travaillées. Mais de façon très intéressante, il y a un document de travail qui est paru cet été en fait, de la part de la DARES, qui a repris en fait, cette question des JINT et qui, à l'aide de différentes sources, a essayé de mesurer la sous-évaluation qu'impliqueraient les JINT. Parce qu'on nous dit, même s'ils sous-évaluent les grèves, eh bien, la tendance est quand même à la baisse. La tendance est vraie. Même si les statistiques ne sont pas bonnes, la tendance est vraie. Et ce rapport, il montre très clairement que dans les années 90 et 2000, eh bien, la sous-évaluation s'est accentuée. Autrement dit, elle n'est pas constante. Donc, en fait, les conflits dans les années 90, en s'appuyant sur les JINT, même cette tendance à la baisse, on peut largement la critiquer.
Mais pourquoi elle est sous-évaluée ? Parce que
elle est sous-évaluée parce
que c'est la manière de recueillir l'information.
Eh bien, les JINT, ça repose en fait sur des mesures qui sont faites par les inspecteurs du travail,
ouais,
qui doivent signaler donc les conflits dans des fiches de conflits, et ensuite on agrège toutes ces fiches. Or, les inspecteurs du travail, ils sont évidemment pas au courant de toutes les grèves,
oui,
et en particulier des grèves courtes, comme les débrayages.
Oui, du coup, c'est plus dur. Hein.
Et donc, ce qui se passe, c'est que dans les années 90 et 2000, eh bien, la part des débrayages dans les grèves augmente, et assez considérablement, au détriment des grèves plus longues qui, elles, sont facilement repérées par les inspecteurs du travail. Et donc, la sous-évaluation,
d'accord,
elle peut s'expliquer comme ça.
Donc oui, justement, quels sont les... Parce que vous nous mettez l'eau à la bouche à nous dire que... Parce que nous... Vous avez mis un point d'interrogation à la lutte continue, à offensive, bien évidemment. On met pas de point d'interrogation. Et donc, quels sont les conflits qui sont en hausse
concernant les employeurs? Donc, l'enquête permet de différencier différentes formes, et il déclare que toutes les formes augmentent, sauf une qui est justement la grève longue, la grève de plus de 2 jours, qui, elle, stagne, voire diminue un petit peu, puisqu'on passe de 3% des établissements, de l'ensemble des établissements, Une parenthèse encore, l'enquête est représentative de l'ensemble des établissements marchands de plus de 20 salariés. Hein, donc on parle d'entreprises de plus de 20 salariés en France. Donc les grèves de plus de 2 jours diminuent un tout petit peu, mais toutes les autres formes augmentent et assez considérablement, en particulier donc, en matière d'arrêt de travail, les débrayages, comme je l'ai dit tout à l'heure, et puis également les manifestations, les pétitions et surtout ce qui est évidemment très, très, très intéressant dans cette période sarkozyenne, les refus d'heures supplémentaires. Hein. Les refus de supplémentaires triplent quasiment.
Ils explosent. Ouais.
Entre les deux périodes de l'enquête avec... presque 10% des établissements qui déclarent, leur direction en tout cas, déclarent affronter ce type de conflit au cours des 3 dernières années précédant l'enquête.
Entre 3% en 1998. Donc,
voilà.
Mais c'est aussi lié peut-être à une évolution aussi de la mise en place des 35 heures, parce que 98...
Voilà, en fait, l'enquête, effectivement, elle entoure un peu la mise en place des 35 heures. Les 35 heures sont mises en place entre 98 et 2001-2002.
Voilà, oui.
Donc l'enquête portant sur 96-98, on a les prémices un peu de la mise en place des 35 heures. Et puis ensuite, la deuxième enquête, c'est 2002-2004. Donc une fois que là, les 35 heures sont mises en place. Il faut rappeler que la moitié des salariés ne sont pas passés aux 35 heures. Hein. Donc voilà. Mais effectivement, c'est lié évidemment à la mise en place des 35 heures. Mais c'est quand même très intéressant de voir ces déclarations qui sont faites donc en 2005 par les employeurs. En 2005, on n'a pas encore inventé le slogan « travailler plus pour gagner plus ». Mais voilà, si on avait eu ces chiffres, on aurait pu réfléchir et peut-être critiquer un peu davantage encore ce slogan à l'aide de ces déclarations.
Mais est-ce qu'on ne peut pas vous reprocher, si on peut se permettre, de comparer des grèves de plus de 2 jours avec des pétitions? Ça n'a quand même pas le même poids, la même... Est-ce qu'il ne faudrait pas pondérer un peu cette enquête? Parce que vous pouvez nous dire que les conflits augmentent, mais effectivement, si les gens ils se mettent à faire des pétitions plutôt que des grèves de 2 jours, je dirais que les employeurs vont se frotter les mains.
Alors effectivement, on pourrait dire, on constate, si par exemple on regroupe un peu les formes en disant les formes avec arrêt de travail et les formes sans arrêt de travail, hein, si on oppose ces deux formes-là, effectivement, donc les deux augmentent, mais celles qui augmentent le plus, et notablement, c'est les formes sans arrêt de travail, hein, manifestation, pétition, refus d'heures supplémentaires. Les formes avec arrêt de travail, donc grève et débrayage, elles augmentent, mais beaucoup moins. Donc on pourrait dire, est-ce que finalement, il n'y a pas un affaiblissement, en quelque sorte? C'est-à-dire qu'il y a un développement de la conflictualité, mais surtout une conflictualité soft. Peut-être au détriment du conflit dur, entre guillemets, que serait la grève, où on a un affrontement, disons, plus ou moins plus direct avec l'employeur. Alors effectivement, c'est une question qu'on s'est posée et on peut la résumer finalement en alternative. Est-ce qu'il y a une substitution entre les formes de conflit ou une combinaison? Hein, parce que en fait, ce qui se passe, c'est que les personnes déclarent davantage une combinaison entre plusieurs formes de conflits. Entre les deux périodes de l'enquête, par exemple, les employeurs et les représentants du personnel aussi déclarent davantage que l'établissement rencontre plusieurs formes de conflits en même temps ou successivement, mais dans la période. Là-dessus, l'hypothèse qu'on a essayé de travailler, c'est donc substitution ou combinaison. Et la réponse qu'on apporte, elle est nuancée. Elle dépend en fait un peu des secteurs. Il y a des secteurs dans lesquels on pourrait penser qu'il y a une forme de substitution, mais de manière générale, c'est plutôt la thèse de la combinaison qu'on a retenue en travaillant en profondeur les données, en regardant dans quels établissements ces différentes formes étaient déclarées, en l'articulant avec d'autres éléments, d'autres variables, et puis en mobilisant également les enquêtes qualitatives dans la dizaine d'établissements que nous avons également enquêté.
Alors, vous semblez aussi intégrer, pour souvenir, des données... Qui apparaissent pas automatiquement comme des conflits, mais tout ce qui est turnover, maladie, quoi, arrêt de travail.
Alors là, en fait, implicitement, on a parlé depuis tout à l'heure de conflits collectifs, en fait. Hein, oui. Et l'enquête, elle permet d'étudier également des conflits individuels. Alors dans les conflits individuels, la forme paradigmatique, l'équivalent de la grève, en quelque sorte, pour les conflits individuels, ce serait le prud'homme, en fait. Hein. Voilà, donc effectivement, il y a le nombre et le recours au prud'homme si l'établissement a rencontré des prud'hommes. Et donc là, on constate également qu'il y a une augmentation assez forte entre les deux périodes de l'enquête. On passe de 36% à 42% des établissements concernés par au moins un prud'homme dans les 3 années précédentes. Et puis il y a d'autres formes, je termine là-dessus, qui sont les sanctions. Les sanctions, elles indiquent également une forme de conflictualité individuelle, en tout cas du point de vue de l'employeur. Il y a également l'absentéisme, puisque dans l'enquête, on pose la question de savoir si l'absentéisme pose un problème aux directions. Et donc là aussi, l'absentéisme est une forme de conflit individuel souterraine, peu dite, mais qui, elle aussi, augmente assez considérablement entre les deux périodes de l'enquête.
Et dans l'enquête aussi, vous abordez aussi la question de l'évolution aussi des formes d'emploi. Le fait qu'il y a plus de tertiaires, moins de secondaires, ça change aussi les formes de
lutte.
Voilà,
en fait, hein, donc la première idée reçue, ce serait des conflits en baisse. Non, ils augmentent. Il y a de plus en plus d'établissements concernés par des conflits et c'est assez important. Une augmentation, je n'ai pas donné le chiffre global, mais il y a à peu près un peu plus de 20% des établissements concernés par un conflit entre 1996 et 1998, selon leur direction. Et il y a 30% qui déclarent cela 6 ans après, entre 2002 et 2004, donc en 2005 pour les 3 années précédentes. Donc ça, c'est la première idée reçue. Puis il y a une seconde idée reçue qui est celle que, en fait, les conflits qui restent, ce seraient des conflits de survie. Ce seraient les conflits de l'industrie où on assisterait à des délocalisations, des fermetures d'usines. Et donc, ouais. Il y a l'exemple, c'est l'ATEX un peu qui est en tête, avec cette idée que les seuls conflits qui restent, c'est des conflits pour l'emploi, enfin pour la défense de l'emploi, des conflits presque désespérés, on pourrait dire, et qui emploient des formes d'action radicale. Donc il y a eu toute une interrogation là-dessus sur est-ce qu'il y a un retour du radicalisme avec les menaces sur l'environnement qui ont été fait peser à Forgeval ou à Célatex. Et puis sinon on aurait quelques catégories de privilégiés, les cheminots, les enseignants, la fonction publique, et puis c'est tout. Et en fait, ce que l'enquête montre, c'est évidemment un peu plus compliqué. En particulier, le paysage conflictuel est beaucoup moins bouleversé que ne pourrait le laisser penser c'est cette idée reçue. En particulier, l'industrie reste le territoire de la grève et le territoire des conflits en général. Plus de 4 établissements industriels sur 10 sont concernés par des conflits entre 2002 et 2004, et des conflits salariaux d'abord, des conflits sur le temps de travail, des conflits sur les conditions de travail et les relations de travail, et simplement en troisième ou quatrième position, des conflits sur l'emploi. Ça, c'est pas que en 2008 où on a beaucoup parlé des conflits salariaux. Entre 2002 et 2004. Autrement dit, les transformations du salariat, tertiarisation, précarisation d'une partie du salariat, féminisation qui continue, elle bouleverse moins qu'on pourrait le penser les territoires du conflit, puisque l'opposition tertiaire-industrie ne transforme pas radicalement ce paysage du conflit. Alors souvent en France, on retraduit en fait cette opposition tertiaire-industrie en une opposition privée-public. En fait, on pourrait dire que, en quelque sorte, l'industrie, ce serait encore le privé, et puis dans le public, ce serait plutôt du tertiaire. Enfin,
d'accord, oui, je vois un peu le.
Voilà, l'idée, c'est simplement de revenir sur cette idée. On oppose constamment le secteur public. Et là aussi, il y a des idées reçues, ou au contraire, à ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'il n'y aurait plus de conflit. Au contraire, la France, ce serait le pays de la grève. La gréviculture à la française, implicitement, c'est une gréviculture publique. Et on pense qu'il n'y a que les fonctionnaires ou les gens de la SNCF, de la RATP qui se mettent en grève et qui prennent en otage les etc. Alors quand on regarde ça, effectivement, la part du public dans les gintes, ces fameux gintes critiquées tout à l'heure.
Les journées individuelles non travaillées.
Voilà. Donc la part du public, elle grossit, c'est vrai, dans les années 80 et 90. Mais j'ai déjà expliqué que dans les années 90, en tout cas, il fallait prendre avec beaucoup de pincettes ces données. Et puis, il faut quand même rappeler que, par exemple, à la SNCF ou à la RATP, il y a assez peu de grèves, en fait. Très peu de grèves. Et lorsqu'on place la France avec des indicateurs similaires à celui des gintes au niveau européen, la France, elle est dans la moyenne européenne et même un petit peu en dessous, beaucoup moins conflictuelle que l'Espagne, évocation de mon voisin. Et la France n'est pas un pays où il y a énormément de grèves. Voilà. Donc c'est aussi une seconde idée reçue que l'on casse.
Alors, nous, il y a une idée reçue que cet ouvrage essaye de s'attaquer vraiment à tous ces lieux communs qu'on entend. Nous, un lieu commun qu'on a peut-être même dit dans Offensive, il faudrait relire les numéros, mais au moins un lieu commun qu'on peut entendre dans nos discussions militantes, dans les débats qu'on peut avoir entre nous, c'est que l'action individuelle se développe et l'action collective chute. Or, pour, pour vous, c'est pas aussi simple que ça ?
Tout à fait. Hein. Alors, un des enseignements de l'enquête, c'est aussi que l'articulation entre les formes collectives et les formes individuelles se renforce. Hein, autrement dit, très concrètement, il y a de plus en plus d'établissements qui sont concernés par les deux formes de conflictualité, les deux formes de conflit. Alors, dans les conflits individuels, par exemple, c'est un taux de prud'homme important ou un taux de sanction élevé. Voilà. Et donc, on dit que dans ce cas-là, l'établissement a une forte conflictualité individuelle. Et puis, également, l'indicateur de l'absentéisme comme posant problème. Voilà. Et en fait, les établissements dans lesquels il y a ces formes de conflits individuels, de plus en plus, ils rencontrent également des formes de conflits collectifs. Mais là où c'est très intéressant, c'est qu'en fait, cette articulation, elle se déroule surtout avec les formes de conflits sans arrêt de travail. Hein, autrement dit, on peut finalement, on pourrait cartographier un peu l'espace de la conflictualité en trois pôles. On aurait un premier pôle dans lequel, qui concerne principalement les grands établissements, l'industrie, où on a des conflits collectifs importants avec arrêt de travail. Hein, où là, c'est le territoire traditionnel de la grève, on va dire. On a à l'opposé un ensemble d'établissements dans lequel on a très peu de conflictualité, qu'elle soit individuelle ou collective. Et puis on a un troisième pôle, et c'est celui-là qui se développe, c'est celui-là qui prend de l'ampleur entre les deux périodes, qui articule forme de conflit sans arrêt de travail, donc pétition, manifestation, refus d'heures supplémentaires, et une forte conflictualité individuelle, sanctions élevées, recours au prud'homme fréquent, absentéisme qui pose problème aux directions. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça montre que ça va plutôt dans la thèse de la combinaison plutôt que la substitution, pour revenir à l'hypothèse évoquée tout à l'heure, puisque ici, se combine très clairement une forme de conflictualité collective et une forme de conflictualité individuelle. Autrement dit, individualisation, oui, certes, il y a un processus d'individualisation assez général, mais il faut largement le remettre en contexte et comprendre que cette individualisation, elle s'articule avec des formes de conflits collectifs dans lesquels les acteurs collectifs sont essentiels. Hein, et donc là, on revient ici aussi sur le fait que les conflits sont fortement associés à la présence de représentants du personnel et en particulier de militants syndicaux.
Sur la judiciarisation des conflits, ça aussi c'est quelque chose qu'on entend énormément. C'est-à-dire les gens font plus la grève parce qu'ils vont au prud'homme, ils obtiennent quelque chose et puis...
Alors là-dessus, il faut être très clair. Hein. Là, je ne m'appuie pas sur les chiffres de l'enquête ici. D'accord. Mais concernant les prud'hommes sont en diminution assez importante en réalité en France. Les études qui ont été faites par Evelyne Cerverin notamment, qui est une chercheuse qui travaille sur cette question depuis assez longtemps, enfin depuis quelques années, montrent très clairement qu'entre 1993 et 2006-2007, il y a à peu près 10% de procédures prud'homales en moins en D'accord. France. Donc les prud'hommes baissent. Alors, ce n'est pas contradictoire avec ce que j'ai dit tout à l'heure, puisque ce que j'ai parlé tout à l'heure, d'établissements concernés par au moins un prud'homme. Hein, donc on peut avoir un nombre de prud'hommes en baisse, mais plus d'établissements concernés par au moins un prud'homme.
D'accord.
Voilà. La contradiction est apparente et pas réelle. D'accord. Mais concernant cette judiciarisation en elle-même, alors moi je me suis spécialement penché sur cette question, mais en fait l'enquête en matière quantitative ne permet pas de répondre beaucoup à ce point-là.
Alors, à la fin aussi du chapitre, dans les dernières pages du chapitre consacré justement à cette question du retrait individuel et de l'action collective, c'est le nom du chapitre, vous parlez aussi d'autres formes de lutte, des conflits de soutien, des barbecues, des choses comme ça. C'est aussi qu'il y a d'autres manières aussi peut-être aujourd'hui au-delà de la simple grève classique, de la grève générale, pour rappeler ce qu'on disait en première partie d'émission.
En fait, on a exploité une question qui porte sur les autres thèmes et autres formes de conflits, dans lesquels en fait, les enquêtés, et ici en particulier les représentants du personnel, on s'appuie beaucoup sur ce qu'ils expliquent eux, mais aussi sur ce que disent les directions, ont mis leurs mots pour décrire ces thèmes ou ces formes de conflits. Et donc effectivement, il y a à peu près entre 300 et 400 répondants qui ont indiqué des autres formes. Et on a dépouillé un peu toutes ces réponses et on a essayé de construire un peu des types. Et effectivement, on a des formes même assez intéressantes. Par exemple, des personnes qui expliquent qu'ils ont démissionné leur chef. C'est un peu cette poussière des petits conflits qu'évoquait Michel Perrault d'ailleurs dans son ouvrage, pour là aussi faire une allusion avec la première partie de l'enquête. Cette poussière des petits conflits, on l'a saisie aussi à travers ces termes qu'emploient direction et représentants du personnel pour désigner des formes de lutte extrêmement diverses, du brassard, du papillon noir, des mails dans lesquels on demande aux personnes de se couvrir, en passant par effectivement des barbecues, des occupations, et puis des boycotts de réunions, ou au contraire des intrusions dans des réunions. Enfin voilà, tous ces termes-là montrent une conflictualité quotidienne, souterraine, très peu... pas quantifié, très difficile à quantifier en réalité, bien sûr, mais qui est extrêmement présente aussi dans les entreprises françaises aujourd'hui.
D'accord. Et est-ce que c'est pas un aveu d'impuissance, parce que vous parlez aussi du fait de prendre un badge, de boycotter certains. Est-ce que aussi c'est pas pour les salariés l'incapacité en fait à
oui on revient sur la question
un salaire c'est
on oui, revient sur la question soft hein. non mais oui, vous avez raison
je trouve que c'est quand même quelque chose qui est quand même une des interrogations les plus profondes. Je suis désolé de vous reposer la même question.
Non, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ces autres formes, puis aussi même plus généralement dans les chiffres que j'ai évoqués, dans les différentes formes de conflits que j'ai évoqués, il faut comprendre qu'un conflit, c'est un processus. Hein, et donc là, on demande aux personnes si il y a eu des refus d'heures supplémentaires au cours des 3 dernières années. Il y a eu des grèves, il y a eu des débrayages, il y a eu des manifestations. Mais on n'interroge pas les personnes sur le déroulement de ce conflit. Et donc, on donne des chiffres, mais après, ce qui est important, c'est de comprendre comment s'articulent ces formes de conflits, comment elles se déroulent dans le temps. Et le fait, par exemple, de bousculer une réunion ou de boycotter les vœux du PDG, parce qu'on a aussi eu ça, on pourrait dire c'est rien, il se passe rien. Mais en fait, très souvent, ça traduit quelque chose en termes de climat social, ça prépare des choses. Et tout ça, en particulier s'il y a des militants syndicaux, et je reviens ici sur un résultat important, qui est que là où il y a des conflits, très souvent, c'est parce qu'il y a des militants syndicaux, des représentants du personnel, mais surtout des militants syndicaux. Et en particulier, quand il y a des conflits avec arrêt de travail, c'est parce qu'il y a des militants syndicaux. Enfin, bon, je vais un peu vite, d'accord, mais en gros, statistiquement. D'accord. Et donc, le boycott d'une réunion, le boycott des vœux, s'il y a un collectif de travail, s'il y a des représentants, eh bien, c'est des choses sur lesquelles ils peuvent s'appuyer pour construire ensuite des revendications et monter en puissance, en quelque sorte, articuler des conflits qui prennent plusieurs formes et qui sont toujours des processus en réalité.
D'accord. Malheureux. Allez-y.
Ce que tu dis, ça me paraît évidemment, le sens du bouquin me paraît d'autant plus intéressant que ça va un petit peu contre l'idée admise d'une espèce de l'existence d'une société qui serait pacifiée, réconciliée. Cette idée d'une société pacifiée, réconciliée, on voit bien d'où elle vient. Est-ce qu'elle n'est pas aussi portée en grande partie par le regard qu'on porte sur ces conflits ou le regard qu'on n'y porte pas ? Je pense en particulier qu'à force... Puisqu'on ne parle pas des conflits sociaux, on a fini par croire que ces conflits n'existent pas. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi, je ne voudrais pas remettre tout le temps sur le tapis la question des médias, mais je ne sais pas, par exemple, dans ce bimestriel qui s'appelle le plan B, il y a toujours des statistiques sur ce dont parlent les journaux, ce dont ils ne parlent pas. Et en particulier, dans ce dont les journaux ne parlent pas, ils citent toujours systématiquement des conflits du travail. Est-ce que ce n'est pas à cause de ça, du fait que les médias ont tourné le dos au monde du travail, que finalement, il y a une idée admise qui est qu'au fond, il ne se passe plus rien sur le front social?
Alors, c'est en partie vrai. En même temps, l'actualité, 2008, tendrait plutôt à dire l'inverse. C'est-à-dire qu'en 2008, on a beaucoup parlé de conflits quand même. Les sans-papiers, bon, les grèves de sans-papiers, c'est quand même quelque chose d'important. Pour la première fois dans la grande distribution, il y a eu une journée interprofessionnelle où des caissières se sont massivement mis en grève. Bon, et puis quand même, il y a eu le pouvoir d'achat, les conflits salariaux, voilà. Et puis de nouveau, là, on est en train de sentir qu'avec la crise et ce qui est en train de se passer, ça commence, voilà. Donc les médias, c'est un peu compliqué. Il faudrait différencier les médias locaux, par exemple, des médias nationaux. Et puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que les logiques médiatiques, elles se focalisent sur certains types de conflits au détriment d'autres.
Oui,
elles se focalisent sur les conflits comme c'est la Tex ou les grands conflits du public.
Notre émission touche à sa fin, mais avant de rendre l'antenne, sortez vos agendas pour noter quelques rendez-vous. Cet après-midi, rendez-vous à 15h30 sur le Vieux-Port pour une manifestation contre le massacre du peuple palestinien. Je vous rappelle également que tous les soirs à 18h sur le Vieux-Port se déroule une manifestation de soutien au peuple palestinien. Ensuite, mercredi 21 janvier, dans le cadre des 10 jours d'initiative aux inculpés du 11 novembre, diverses initiatives ont lieu à Marseille, dont un débat avec Éric Azan, Charles Jacquet et sous réserve Giorgio Agamben. Ce rendez-vous aura lieu à 18h à l'intermédiaire, 63 place Jean Jaurès à Marseille. Enfin, le 23 janvier, projection du film Chomsky et compagnie en soutien aux ouvriers et ouvrières d'ArcelorMittal, suivi d'un débat avec le réalisateur. Ce rendez-vous aura lieu à 19h au cinéma L'Odyssée à Fos-sur-Mer. d'autres dates de projection débat dans la région sur le site internet lesmutins.org. Vous pouvez retrouver toutes ces infos et bien d'autres rendez-vous militants sur Marseille sur le site web de Millebabor, la médiathèque alternative de Marseille, à l'adresse suivante, millebabor.org. Je vous rappelle que cette émission a été réalisée par le groupe Offensive Libertaire et Sociale de Marseille. Toutes les émissions précédemment diffusées sont également disponibles en podcast sur le site web de La Grenouille, à la page Offensive Sonore. N'hésitez pas à y faire un tour pour plus d'informations ou pour trouver nos contacts. Enfin, avant d'animer une émission de radio, le groupe Offensive Libertaire et Sociale édite d'abord une revue trimestrielle qui s'intitule Offensive. Le dernier numéro est paru en décembre avec un dossier consacré à la santé. Le suivant portera sur le thème de l'enfermement et j'encourage d'ores et déjà les auditeurs à se la procurer. Vous pouvez trouver la revue soit en kiosque ou bien sur Marseille dans les librairies suivantes. L'Odeur du Temps, Bouquine, Les Portulans, la librairie Maupetit ou au local Millebabor. Merci à toutes et à tous, on se retrouve le mois prochain à la même heure.